les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Derrière la toute première porte du calendrier de l'Avent, on est là avec tous nos conseils jardinage. Car oui, en décembre, il y a toujours de quoi faire au jardin et surtout de quoi chouchouter toutes nos jolies plantes. Et puis notre deuxième petit lutin jardinier est évidemment bien réveillé, enfin à peu près j'imagine. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie. Effectivement, on est en pleine forme et c'est un vrai plaisir d'accompagner les premiers instants de votre week-end. Et sans lui, rien ne pourrait se faire. Il s'agit bien sûr de notre jardinier professionnel du jour, Jean-Pierre Ribaud, le patron de Ribaud Paysages à Queuve. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et nous sommes le 1er décembre 2018, le temps des fêtes de fin d'année approche gentiment. Mais par contre, notre passion du jardinage, elle, reste intacte. Malgré le froid hivernal, on s'intéresse à vos espaces verts. Alors que peut-on laisser dans nos jardins à cette saison? Quelles plantes doivent être rentrées? On fait le plein de bons conseils et puis on répond évidemment à toutes vos questions à vous avec Jean-Pierre Ribaud.
Des questions que vous pouvez lui poser dès maintenant et en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Jean-Pierre vous répondra personnellement et en détail. Vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez donc ce SMS au 939. Et il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Et bien voilà, je crois qu'on a tout dit. Les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et la première question de la matinée nous vient de Jeanne, qui a un problème avec sa fougère, une fougère d'intérieur, nous dit-elle. Elle est attaquée par la cochenille, enfin surtout sur les nouvelles feuilles. Certaines feuilles sont très grandes, plus d'un mètre hein, quand même. Et puis elle voudrait savoir quel était le meilleur remède contre ce problème, la cochenille sur les fougères, Jean-Pierre Ribaud.
Oui, bien sûr. Bonjour à Jeanne. En fait, la cochenille est un parasite qui vit sur les parties supérieures du végétal. Et puis sa lutte, elle est uniquement chimique, on ne peut pas intervenir autrement qu'avec un produit phytosanitaire que vous devrez acheter dans un commerce spécialisé. En fait, le produit que vous devrez acheter, ce sera sous forme d'une sorte d'huile qui va couvrir par pulvérisation, donc quand vous utiliserez ce produit, ça va vous couvrir la cochenille et puis elle va s'étouffer naturellement sous cette huile qui va se durcir en étant en contact du végétal et du parasite. Et puis il faudra réintervenir deux ou trois fois parce qu'évidemment il va rester des œufs sur cette plante et puis pour prendre la première, la deuxième et la troisième génération, il faudra vraiment réintervenir. Après, quand le parasite ne sera plus, il devrait tomber. Il faudra peut-être un peu brosser ou laver la plante pour voir les nouvelles attaques avec cette cochenille. Il y a plusieurs sortes de cochenilles. Il y a la floconneuse, il y a la diaspide avec une carapace brune par-dessus. Elle est facile à éradiquer sous réserve que un bon produit que vous devrez vraiment trouver dans le commerce.
Et puis, par rapport toujours à la cochenille, est-ce que si, par exemple, Jeanne a une autre plante à côté de sa fougère, est-ce que ça peut se propager aux autres plantes? C'est justement pour ça qu'il faut absolument l'éradiquer au plus vite.
Oui, alors ça peut se propager, bien entendu. Maintenant, il y a des plantes qui sont hautes, plus faciles que certaines par rapport à ces parasites. Il faut être attentif au niveau des plantes d'intérieur que Jeanne a dans son aménagement. Et puis, si d'autres plantes sont attaquées, bien évidemment, avec un pulvérisateur, simplement le pulvériser pour éradiquer le problème. C'est vraiment propre aussi à la saison, hein, parce que maintenant, on est dans une période où il fait froid dehors, on chauffe dedans, l'air devient sec, et puis la cochenille se multiplie plus facilement ce climat-là.
La question qui suit est une question qui concerne les plantes aromatiques. C'est Camille qui nous écrit « J'ai des plantes aromatiques sur mon balcon, notamment du romarin, de la sauge, de la mélisse citronnée et de la menthe. Quelles précautions dois-je prendre pour l'hiver? Dois-je couvrir certaines plantes ?»
Bonjour Camille. Alors effectivement, le romarin, lui, va donner tendu durant l'hiver par chez nous. D'autant plus que s'il est dans une barquette ou dans un pot ou un jardin en suspension, le froid va l'attaquer de tous les côtés, par-dessous, par-dessus, sur les côtés, enfin au niveau du substrat terreux. Et puis lui, il ne veut pas se porter. Quant aux autres, alors évidemment, elle serait nettement mieux dans une plate-bande potagère au niveau du sol, parce que dans un jardin potager, vous avez un carré de plantes aromatiques, malgré tout, même s'il fait très froid par-dessus, vous avez la température du sol qui ne va pas beaucoup descendre. Tandis que dans un jardin en suspension, donc ou une barquette ou quelque chose comme ça, le froid est très très virulent, puis il y a un peu plus de risque de casse.
Est-ce que pour toutes ces plantes aromatiques, c'est un peu le même traitement? Parce que voilà, on a souvent parlé de la menthe qui est quand même assez résistante à l'hiver. Oui. Est-ce que quelle est la plus fragile en fait? Quelle est la plante auquel il faudrait accorder le plus d'attention cette période?
Vraiment le romarin. Lui, il ne va pas supporter le gel par chez nous, d'autant plus qu'il y a des forts courants de brise et puis il ne supporte pas du tout ce climat-là.
On va parler de tomates en pot, Jean-Pierre. C'est Béatrice qui nous demande tout simplement quel type de terreau est conseillé pour mettre dans des pots avec des tomates.
Oui, alors Béatrice, le plus simple, c'est de trouver du terreau de bac et terrasse. Il ne faut pas mettre n'importe quel terreau dans des pots, dans des bacs extérieurs, parce que selon le terreau que vous utiliserez, il y en a certains qui ont un potentiel de rétention d'eau qui est énorme, et puis d'autres qui n'ont pas du tout retenir cette eau. Alors après aussi, peut-être éviter les terreaux avec tout, parce qu'on sait que c'est un élément naturel qui est en perdition, puis plus on en consommera, moins il en restera. Mais terreau de bac et terrasse, vraiment, c'est très important. Et puis, contrôler simplement que vous mettez du terreau dans des pots ou dans des bacs qui est de l'adjonction d'engrais longue durée. Sinon, vous pouvez aussi trouver dans les commerces spécialisés de l'engrais sous forme de boulettes qui peut se redonner à la terre, à la plante sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Comme ça, vous êtes garant d'avoir une pousse relativement intéressante dans ces surfaces-là. Parce qu'il ne faut juste pas oublier que dans les pots, dans les bacs, le volume du terreau est très restreint et puis il faut vraiment compenser par de l'élément nutritif.
La question qui arrive maintenant, c'est Cédric qui nous l'a écrite. Il a récemment effectué des travaux de peinture dans son appartement et il demande si vous connaissez une plante d'intérieur qui aurait la propriété de purifier l'air, car avec tous ces produits toxiques, il s'inquiète pour la pollution de l'air de son appartement.
Bonjour.
Question,
oui. Bonjour Cédric. En fait, tout simplement, toutes les plantes vont régénérer l'air de votre appartement. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit de la végétation qui va enlever les odeurs ou les désagréments d'une nouvelle peinture dans un appart, une super ventilation d'autres pièces. Après, au niveau végétal, comme je vous dis, quoi, toute plante est censée transformer le gaz carbonique en oxygène. Et puis, il n'y en a pas une qui va manger plus que l'autre de l'air. Non, c'est toutes les plantes. Le mieux, c'est une super aération de la pièce, vraiment.
Merci Jean-Pierre, en tout cas, pour toutes ces réponses, évidemment. Hein. Est-ce que vous auriez une plante en particulier ou pas? Une fougère, par exemple? Est-ce que ça...
Non.
Non, pas forcément?
Non, peut-être une plante qui est un peu parfumante, mais je ne vois pas trop laquelle en cette période-là.
Mais en tout cas, c'est tout bénef d'avoir des plantes dans son appartement.
De toute façon.
Bien, merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud. On va faire une petite pause musicale. On vous rappelle, vous qui nous écoutez, comment vous pouvez poser votre question. C'est tout simple, hein, vous pouvez envoyer un petit message au 939 avec le mot jardin, un espace et votre question détaillée. Il y a également un formulaire sur nos sites internet ou tout simplement vous lancer un coup de fil. 0900 70 20 20 36 centimes la minute. Puis là, on vous prend en ligne ou pas, ou tout simplement vous posez votre question hors antenne. Et Jean-Pierre Ribaud pourra détailler la réponse et la personnaliser rien que pour vous.
Et on a une question qui concerne les cendres de cheminée. On en avait parlé il y a quelques semaines. C'est Bernard qui nous a écrit. Vous avez déjà parlé d'utilisation des cendres de cheminée dans le compost, mais comme je n'en ai pas, je me demandais quelles autres utilisations je pouvais en faire pour que ce soit utile au jardin.
Oui, et bien bonjour. C'est vrai qu'on a déjà parlé de ces problèmes de cendres à l'hiver. C'est un problème qui revient. À petite dose, vous pouvez les épandre sous une haie, dans un massif, vous avez des rosiers, vous avez des plantes vivaces, ou en fait c'est égal. L'important, c'est de mettre par petite dose des petites épaisseurs et puis l'enfouir par un bêchage, un binage ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est le compost communal qui fera foi. Ça dépend un peu du volume que vous avez. Mais il faut juste savoir que ce n'est pas une super matière attractive pour les aménagements extérieurs, potagers et autres. Ça ne ramène pas grand chose au niveau d'éléments fertilisants. C'est surtout le principe de valoriser un peu ce produit, sachant qu'on ne sait que faire avec, quoi. Par petite dose, je ne peux pas vous dire mieux.
Merci Jean-Pierre. On a une autre question. Basilic, hein, on revient sur ces plantes aromatiques. Une question qui nous vient de Charlotte, qui a lu que justement le basilic pouvait tenir tout l'hiver à l'intérieur. Par contre, le sien est en train de mourir dans sa cuisine. Pourtant, elle nous dit que la terre n'est jamais sèche. Alors effectivement, le basilic, c'est très délicat, hein, Jean-Pierre. On en parle assez souvent. C'est presque impossible à tenir très 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 longtemps.
Mais c'est évident. Bonjour Charlotte. En fait, c'est tout à fait naturel que ce basilic va périr durant cet hiver parce que ça reste une plante qui est uniquement annuelle. Ça veut dire qu'on la sème au printemps, on peut la récolter durant toute la saison, ou si vous ne la récoltez pas, ben elle va se mettre à fleurir et puis à produire de la graine sur son cycle naturel. Et puis à l'automne, et bien, comme toutes les autres plantes annuelles qu'on a par chez nous, et bien elle doit disparaître. Alors automatiquement, dans votre cuisine, peut-être vous pouvez la tenir un petit peu plus longtemps que dans le potager, parce qu'il a fait un peu plus chaud. Il faut se souvenir que le basilic est une plante qui vient plutôt des périodes du sud. Mais automatiquement, vous devrez quand même la perdre durant cet hiver. Donc simplement, il faudra racheter des plants, des nouveaux plants au printemps et puis recommencer ce cycle.
Est-ce qu'on peut planter des graines de basilic pour que ça pousse, ou c'est mieux de l'acheter directement quand il est déjà poussé, on va dire?
Alors, on peut semer du basilic, mais faut savoir que le jardinier, quand il va commencer sa culture, vous êtes encore en train d'enlever la neige dans vos alentours de maison. Donc, l'horticulteur qui va produire ce basilic va le semer février, début mars, pour avoir des plants relativement importants déjà en mai. Si vous commencez de semer vos basilic en mai, les premières feuilles à récolter pour les salades aux tomates sera seulement à partir d'août-septembre, quand la tomate commencera à diminuer dans le potager, voilà.
On a une question, c'est Léonard qui a la possibilité d'obtenir du crottin de cheval pur sans paille. Et cependant, il ne sait pas comment l'utiliser, ni sur quelle plante le mettre. Est-ce qu'il faudrait qu'il le conserve jusqu'au printemps, ou est-ce qu'il peut l'utiliser maintenant? Il demande.
Alors non, il peut utiliser ce crottin déjà maintenant. Simplement, il faut aussi être parcimonieux au niveau de la dose. Si vous en mettez trop épais et puis que vous avez des plantes qui sont encore latentes dans le potager, soit des vivaces, soit des arbustes ou même des plantes aromatiques qui doivent disparaître durant l'hiver parce que la partie végétative disparaît et puis redémarre au printemps. Donc si vous mettez une trop forte épaisseur de crottin de cheval, ce qui risque, c'est qu'il y ait une trop forte fermentation puis qu'il vous détruise la partie inférieure des plantes qui seront en place. Au même titre que si vous avez des arbustes, des fruitiers, si vous décidez de faire un mulchi au pied de chaque arbre ou arbuste, il faut surtout ne jamais toucher les troncs parce que autant le crottin qu'en pleine saison, les déchets de tonte, ils se mettent en fermentation et puis c'est très très nocif au niveau des écorces, ça vous brûle votre végétal. Mais à une distance de 50-60 cm des troncs ou des arbustes, là vous pouvez faire un super mulchi. Le crottin de cheval est un élément qui est super fertilisant. Il faut juste pas trop en épaisseur pour éviter ces dégâts de fermentation. Après, il y a peut-être aussi des risques d'avoir des super levées de champignons, ça faut l'espérer.
Ah ouais, c'est vrai, ça pourrait faire un bon mélange en tout cas.
Tout
le crottin de cheval, c'est donc efficace en cette période pour protéger les plantes?
Alors, protéger, oui, parce que comme tout autre mulchi, qu'il soit de paille ou de compost ou ce que vous avez comme mulchi, ça vous fait une couverture au niveau des sols et puis le froid va l'attaquer nettement moins en profondeur que si vous n'avez rien du tout. C'est comme si on peut dire une couverture de gazon au pied d'un fruitier ou un fruitier qui serait planté dans un potager. La raison d'avoir un gazon au niveau du sol va vous protéger du froid, ce végétal, enfin tous les végétaux que vous aurez par le fait d'avoir cette couverture. Et puis sur un sol démuni de tout, eh bien le froid sera plus méchant.
Merci Jean-Pierre Ribaud d'être avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et Sophie, il y a plusieurs moyens pour les auditeurs de poser leurs questions directement à Jean-Pierre.
Oui, alors je rappelle, il y a par écrit le moyen simple et pratique. Vous pouvez donc nous envoyer un SMS, vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace et vous tapez votre question et puis vous envoyez tout au 939. Vous pouvez aussi trouver un formulaire sous nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et puis sinon, bien, il reste le moyen téléphonique, le moyen direct. Vous nous appelez au 0901 70 20 20 et soit vous posez directement votre question à Jean-Pierre ou alors vous nous la dites. Et c'est nous qui allons lui demander.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
On est de retour dans les jardinières. Jusqu'à 8h, on répond à toutes vos questions jardinage. Et pour ça, Sophie et moi, on est très bien accompagnés ce matin. C'est Jean-Pierre Ribaud, jardinier paysagiste à Queuves, qui nous accompagne. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez.
Et vous le savez, les jardinières, c'est votre émission, elle vit grâce à vous. Quelle que soit votre question, vous pouvez la poser au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Si vous vous appelez, vous aurez donc l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Jean-Pierre Ribaud. Et on lit également vos SMS. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin et vous laissez un espace et vous tapez votre question et vous envoyez le tout au 939. Et puis sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet onglet émission question aux jardinières. Et dans les deux cas où vous nous envoyez quelque chose, un SMS ou le formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème pour qu'on puisse répondre un maximum précisément.
Et du tout, ça voulait rien dire ce que vous avez dit, Sophie.
Pas du tout.
Mais en tout cas, on a reçu un SMS, donc ça marche. On a reçu une question qui nous demande comment entretenir un Dipladenia que notre auditrice a rentré durant l'hiver. Est-ce qu'il faut le couper et l'arroser, Jean-Pierre Ribaud?
Bonne question. Le Dipladenia, c'est une plante qui va fleurir sur le bois de l'année. Ça veut dire que le fait de le tailler maintenant va provoquer une repousse en abondance au printemps. Et puis, ça va vous favoriser un maximum de floraison, au même titre qu'un rosier, si vous connaissez le rosier. Après, c'est aussi une plante qui apprécie énormément les températures plutôt élevées et pas fraîches. Le rentrer, c'est bien sûr une obligation par chez nous. Le mieux, c'est de le placer dans une pièce où il fait 14, 15, 16 degrés, quelque chose comme ça, sous une source de lumière abondante. Simplement, ne pas le poser à côté d'un radiateur ou alors vraiment fermer ce radiateur parce qu'il ne va pas du tout apprécier cette arrivée d'air chaud d'un radiateur. Et puis, au niveau de son entretien durant la période hivernante, faudra l'arroser, bien sûr. Peut-être attendre que le terreau ait perdu en quantité d'humidité pour y ramener de l'humidité. Il apprécie d'avoir ces échanges d'humidité au sol, ça veut dire un bon arrosage et puis un peu en souffrance pour redémarrer avec de l'arrosage. Et puis, ce qui serait aussi nécessaire de faire par rapport à son feuillage, ce serait de l'humidifier avec un pulvérisateur. Et puis là, bien sûr, de préférence avec de l'eau de pluie et puis de l'eau tempérée, surtout pas froide, parce que là, vous pourrez avoir des chutes excessives de feuilles suite à cette intervention. Mais il apprécierait énormément, une, deux fois par semaine, une pulvérisation d'eau tiède, mais vraiment sans calcaire, voilà.
Et après le Dipladenia, on parle de géranium. C'est Anita qui demande, à cette période bien froide, conseillez-vous de couvrir les plantes et rentrer les géraniums ?
Alors oui, évidemment, le géranium, c'est une plante vivace. Hein, ça peut même être un arbuste selon les contrées, en tout cas pas chez nous, parce qu'on n'arrive pas à le tenir plusieurs années, parce qu'évidemment, le passage hivernant est compliqué. Le laisser dehors, il va geler automatiquement, donc il faut le rentrer. On peut le laisser, je ne veux pas dire en cave, non, mais dans un endroit plutôt frais. Lui, il va supporter jusqu'à 2-3 degrés de température durant l'hiver, ce n'est pas le souci. Ce qu'il ne va pas apprécier, c'est le gel. Et puis automatiquement, vous lui perdez les feuilles. Il va certainement redémarrer avec quelques redémarrages étiolés jaunes de repousse, parce que ben, c'est l'hiver, et puis il va quand même chercher à repartir un petit peu. Simplement, au printemps, quand vous le ressortez, bien, il faut bien le bassiner, enlever ces éléments qui auraient poussé durant l'hiver parce qu'ils seront trop étiolés et jaunes. Et puis l'arbuste, le géranium va redémarrer.
Pour revenir à ces éléments qu'il faut couvrir, rentrer, quand on parle de recouvrir une plante, on parle du pot, on parle de la plante en elle-même. Quelles sont finalement les plantes qui nécessitent ce genre de soins ?
Alors il y en a passablement, surtout les plantes qui se trouvent dans des pots, parce que comme on a dit tout à l'heure, le pot est très vulnérable au froid, le froid va le prendre dans tous les sens, le végétal. Le couvrir avec un flim, c'est des produits qu'on trouve dans les grandes surfaces, des produits adaptés à ça. Il faut que la luminosité passe quand même un peu pour qu'on puisse le couvrir durant l'hiver. Quelle sorte de plantes ? Ben, d'autant plus tous les pots. Après, dans les aménagements paysagers, on a dans les érables japonais, on a même eu une année des dégâts sur tuyas selon les endroits par rapport au froid, parce qu'on a eu un fort froid printanier très tard, et puis le tuyas avait déjà démarré au niveau de la sève, et puis on a eu des éclatements de sève dans les cellules. Alors quoi couvrir ? À un moment donné, il y a aussi une sélection naturelle qui va se faire automatiquement par chez vous. Si je prends la région d'Ajoie, pour ne pas la citer, il y a des plantes qui ne vont pas passer. Puis sur la région de Boncourt, eh bien, c'est des plantes qui vont supporter parce qu'ils sont à 360, 370 mètres d'altitude. Et puis chez nous, ils ne passent pas. Donc à un moment donné, il y a une sélection naturelle qui se produit.
C'est fou ça. Donc en fait, avec seulement quelques mètres d'altitude de différence, ou bien même voilà, différence d'exposition, ça peut complètement changer.
Ah oui, oui, vraiment, sur Boncourt, on rencontre des végétaux qu'on ne va pas trouver sur Porrentruy, ça c'est l'évidence.
Incroyable, moi ça je ne savais pas, voyez-vous, vous me l'apprenez, Jean-Pierre. Et j'avais encore une question par rapport aux oliviers. On a souvent des questions justement de gens qui ont des oliviers, qui se posent la question comment agir pour le mieux pendant l'hiver, parce que c'est vrai que ma foi, les oliviers, c'est un arbre du sud, hein, on ne peut pas le nier. Oui. Quel est selon vous le meilleur moyen de les préserver du froid ?
Alors, je connais quelques personnes qui en ont en fixe dans des aménagements paysagers. Il les protège relativement bien au niveau de la partie végétative, aérienne, avec des flims, avec de la jute, avec des éléments comme ça. Jusque-là, ben, les hivers n'ont pas été trop rigoureux, et puis ils ont passé. Je ne peux pas vous dire que cet hiver, on n'aura pas une période de -20, -30 pendant 15 jours, et puis qu'ils vont encore supporter ce choc. Après, au niveau des oliviers qui se trouvent dans des pots, à l'évidence, il faut les rentrer, parce que comme on a dit, ben, ces pots, c'est le plus vulnérable au niveau du froid. Et puis, les mettre dans un endroit où ils ne gèlent pas, même si ça descend à -1, -2, ils vont encore supporter l'olivier, ce n'est pas le problème. Ce qu'il ne va pas supporter, c'est les forts courants de bise et puis les forts froids. Pas oublier de l'arroser, évidemment. L'humidifier avec un pulvérisateur, comme on a dit tout à l'heure, avec de l'eau qui sera de pluie, tempérée, il va vraiment l'apprécier. Et puis, au printemps, il va redémarrer. À l'évidence, quand on le déplace comme ça, en période d'automne, d'hiver, pour le début de cette hibernation, on a quand même une forte chute de feuilles, simplement qu'il est un peu déstabilisé par rapport à l'emplacement, à l'espace dans lequel il se trouve, au niveau température. C'est pas trop grave, ça, il va les remettre en production au printemps. Mais pour, c'est vrai qu'on trouve des super végétales maintenant, des grands, grands volumes, et puis ça vaut la peine de leur vouer du soin.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queux, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et vous qui nous écoutez, vous avez plusieurs moyens pour poser vos questions directement à Jean-Pierre et Sophie, vous allez nous décrire tout ça.
Vous pouvez donc le faire par téléphone en nous appelant au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous envoyez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez tout au 939. Ou sinon, vous pouvez trouver le formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
On a reçu pendant cette pause musicale, on a reçu un SMS de Vincent de Courgenay qui nous demande s'il est possible de tailler de la lavande actuellement.
Oui, bonjour Vincent. Alors évidemment qu'on peut tailler la lavande. Je dirais que vous avez un peu du retard dans l'intervention. Le mieux, ce serait de la tailler tout de suite après floraison, ça veut dire août, septembre. Le fait de la tailler à cette période-là, vous les provoquez un redémarrage précoce déjà des nouvelles pousses sur lesquelles se trouveront les fleurs pour l'année prochaine. Mais de toute façon, c'est une obligation de la tailler, parce que si vous ne la taillez pas, si vous ne l'avez pas fait donc à cette période-là, puis que vous voulez la faire maintenant, il faut vraiment le faire, parce que de toute façon, là, la partie de florale, elle est de toute façon perdue. Hein. C'est une fleur qui tombe, qu'il faut absolument couper, parce que sinon ça se dessèche, c'est vilain. Et puis il faut surtout réintervenir un peu dans la pousse de l'année en cours. Si vous la laissez se développer trop long, et puis que vous ne taillez pas, c'est une pousse qui peut faire tout de suite 7, 8, 10 cm. Eh bien, votre lavande, elle va continuer de se développer en longueur, et puis elle va s'ouvrir. Vous allez avoir des éléments ligneux, donc du bois qui va se dégager, qui sera apparent dans la lavande, et puis elle sera vilaine. Juste aussi, peut-être un petit conseil pour tous les auditeurs, quand vous achetez de la lavande, il y a plusieurs types de lavande. Le mieux, la plus jolie, c'est celle qui développe des ombelles florales sur des courtes tiges. Il ne faut pas prendre les lavandes qui se développent sur des longueurs de 20-30 cm, parce que de 1, elle n'est pas forcément très jolie, puis de 2, elle s'ouvre, et de 3, elle va vous donner un surplus de travail. Donc, cherchez de la lavande qui ne se développe pas trop dans la longueur. Il y a plusieurs types. Là, tout jardinier pourra vous conseiller.
Merci Jean-Pierre Ribaud. Si vous avez envie de poser une question à Jean-Pierre, hein, vous avez encore quelques minutes. Profitez 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute et par SMS, un petit message avec le mot jardin au début, un espace et votre question bien détaillée, tout ça au 939. Et Jean-Pierre, on va parler taille toujours, hein, avec les arbres fruitiers cette fois-ci, parce que la semaine dernière, on avait parlé du fait qu'il était conseillé de planter, non c'est pas taille, c'est plantation d'arbres fruitiers. Pas que je me plante, hein, c'est cas de le dire. Les arbres fruitiers sont donc, en ce moment, c'est bénéfique de les planter à cette période. On a une question de Jean-Marc qui nous demande jusqu'à quelle date peut-on les planter pour qu'ils soient en bonne santé.
Bonjour Jean-Marc. En fait, jusqu'à quelle date? Le plus tôt est le mieux pour plusieurs raisons. C'est que quand vous chercherez un végétal à acheter, à cette période-là, en début des ventes, vous aurez une quantité de choix. Et puis sur le printemps, ben, vous les ramassez ce qui va rester. Et puis, une plantation hâtive va permettre au sol de se remettre en place aisément durant la période hivernante. Vous n'aurez plus d'espace d'air, vous n'aurez plus d'éléments comme ça que si vous le plantez au printemps, eh bien, la terre devra se mettre en place et puis vous les retardez un peu le démarrage du végétal. Donc le plus tôt est le mieux. À partir de quand? À partir du moment où on les trouve dans les grandes surfaces. Acheter vraiment des fruitiers en racines nues, puis surtout pas en pot, parce que ça, c'est le mauvais conseil d'acheter en pot. C'est souvent des arbres qui sont restés dans les pépinières le printemps de l'année d'avant, qui ont été rempotés. Et puis, le phénomène, c'est que d'être dans un pot, le fruitier, il a tendance à avoir des racines qui vont tourner au niveau de leur développement. Et puis, comme vous êtes un amateur jardinier, puis pas un pro, vous voulez omettre de couper ses racines sur le pourtour de cette motte. Et puis, dans 8-10 ans, votre fruitier va tomber tout simplement parce qu'il se sera étouffé dans l'achalandage des racines qui auront continué de se développer en tournant. Et puis après, ben, pas oublier le collet de greffe, hein, il doit être toujours en l'air, un super tuteur. Arrosez quand même un petit coup, même si vous le plantez à cette période, comme ça, la terre va se mettre d'autant plus rapidement en place. Et puis, tout est parti pour une super récolte.
Merci Jean-Pierre, et on a une question qui vient de nous parvenir par formulaire. C'est Gilbert de Moutier qui nous dit que, vu la température clémente de ces dernières semaines, son gazon a repoussé, et il demande s'il est judicieux de le couper à nouveau aujourd'hui ou pas.
Oui, alors Gilbert, bien sûr que c'est peut-être judicieux de le recouper. S'il est reparti en pousse, il y a plusieurs solutions à ça. Bien sûr, l'arrivée d'humidité. Est-ce que vous avez mis de l'engrais? Ça, je ne sais pas, ça dépend de l'intervention que vous aurez fait. Faut juste pas laisser les pelouses trop longues durant l'hiver, parce que d'autant plus si c'est encore un jeune semis de cette année, sinon vous avez un fort risque d'attaque de fonte de semis. C'est un champignon qui se développe sous la neige, et puis au printemps il sera complètement auréolé de parties sèches attaquées par ce champignon. Et puis donc pour combattre ce phénomène, oui, faut le tondre, là vous pouvez y aller.
Merci Jean-Pierre. On a encore notre petite question finale. Hein. Vous le savez, nous sommes le 1er décembre. Et ouais, déjà, première porte du calendrier de l'Avent, on le savait. Mmh. On l'a dit tout à l'heure, mais au jardin, qu'est-ce que vous conseillez de faire en ce moment avec ces températures qui finalement ne sont pas si froides que ça?
Oui, alors, mais quand même humide, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans un potager ou dans un aménagement? Évidemment, dans les potagers, ramasser le sol des légumes qui pourraient rester, mettre de la jonction en paillis ou fumier ou ce que vous avez. Le bêcher grossièrement est une bonne intervention. Ça détruit aussi passablement de plantes annuelles et plantes à désirables que vous pourriez avoir au printemps. Et puis dans les aménagements paysagers, évidemment, ramasser toutes ces feuilles parce qu'il y en a des gros amas, et puis ça peut faire périr votre pelouse dessous. Taillez vos plantes vivaces, entretenir les rosiers, commencer la taille des fruitiers, toutes les plantations évidemment en plantes racines nues que vous trouverez, et puis également bien sûr ce qui se trouve en pot, et puis commencez d'aller chercher le sapin.
Eh oui.
Et puis, c'était pas la dernière question, c'était l'avant-dernière. On a une question qui vient de nous parvenir de Julien de la Chaux-de-Fonds, qui dit qu'il a un olivier en pot dans la cave. Ses chats vont faire leurs besoins dedans. Est-ce que c'est grave pour l'olivier?
Ben, c'est des coquins, ces chats. Non, simplement les chats, s'ils vont dans la surface supérieure de votre pot, c'est que vous avez un substrat qui est très sec, et puis le chat, bon, on le connaît, c'est un coquin, il va pour faire ses besoins dans les espaces très secs. Alors arroser trop abondamment votre olivier n'est pas la solution pour éviter ce phénomène. Est-ce que c'est un désagrément pour l'olivier? Non, d'autant plus pour autant qu'il ne gratte pas trop trop profond.
C'est un engrais, non?
Alors après, on peut le dire comme ça, mais bonjour les odeurs dans la cave, ouais, ça va pas être tout cool. Hein. C'est pas un grand problème, non.
D'accord. Est-ce qu'il y aurait des herbes à mettre pour les éloigner ou pas?
Des herbes pas, mais simplement un sac, un plastique ou quelque chose, couvrir cette surface de terre qui est trop sèche, et puis qu'on ne peut pas vraiment humidifier parce que l'olivier ne veut pas le supporter. Sinon, voilà.
Bon, ben, en tout cas, c'est ni toxique pour l'olivier ni pour le chat, donc c'est tout bon. Et ben, le retourne, et puis c'est déjà le moment de nous dire au revoir, Jean-Pierre Ribaud. Merci d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs ce matin. On vous souhaite une belle journée, puis à la semaine prochaine, parce que paraît-il que vous serez de nouveau là.
C'est un grand plaisir, merci. J'ai aussi un grand plaisir à participer à tout ça.
Les jardinières seront donc de retour samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, eh bien, ce n'est pas la peine d'attendre notre prochaine émission. Vous pouvez tout simplement le faire dès maintenant par SMS au 939 ou avec le formulaire présent sur nos sites. Et vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Excellent week-end à tous. À la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.